Michel de Messine, bonjour. D'abord, vous avez après rendez-vous ici avec les lecteurs pour une séance de dédicace sur ce livre que j'ai parcouru avec plaisir, Une vie à rallumer les étoiles. Pourquoi avoir accepté de publier cette biographie? C'était le moment de faire le point. Qu'est-ce qui vous a fait dire oui?
C'est tout à fait par hasard et par circonstance. En 2017, j'ai eu fini mon dernier mandat de sénatrice, donc je m'apprêtais à ouvrir d'autres pages, associatives notamment. Et un jour, dans une manifestation du Secours populaire, je rencontre Patrick Robert, que je connaissais bien parce que je l'avais côtoyé lorsque j'étais adjointe au sport à Lille. On avait travaillé un petit peu ensemble. Lui, il est par ailleurs le président de l'association du LOSC. Mais c'est aussi un biographe à 16 heures perdues. Et il a écrit beaucoup de biographies, notamment celle de sportifs, Christian Palcom, et aussi celle d'artistes, Jenny Clève, par exemple. Et donc, il m'interpelle, il me demande, est-ce que vous accepteriez que j'écrive votre biographie? Alors, j'étais quand même surprise. J'ai dit, pourquoi moi?
Mais c'est quelque chose que vous avez l'air de toujours demander dans votre parcours. Pourquoi moi? On a l'impression qu'on en parlera tout à l'heure, mais que toutes les choses arrivent comme ça.
Ouais. Et donc il m'a dit, ce qui m'intéresse, d'abord on se connaît, mais ce qui m'intéresse, c'est des parcours de personnalités de la région, d'origine modeste, jusqu'au plus haut niveau des responsabilités, et qui conservent un attachement très fort à leur territoire et qui, au fond, n'ont pas changé. Donc je comprends pourquoi il veut faire mon portrait. Ça correspond, effectivement. Donc, je lui demande quand même de réfléchir un peu, parce que j'avais jamais imaginé ça. Plusieurs raisons. Hein. Bon, des biographies dans ma formation politique... C'est pas trop l'habitude. Ouais. En fait, on fait beaucoup d'ouvrages, mais souvent sur des sujets à défendre, etc. Parler de soi, c'est pas trop la mode, hein, en fait. Et donc, j'ai réfléchi, et puis c'était quelqu'un qui était pas communiste, qui était pas de ma formation politique. Donc, voilà, c'est un enjeu. Je dirais même que c'est un défi, peut-être un risque. Ouais. Et puis j'ai réfléchi, après tout, pourquoi pas avoir un regard extérieur? Moi, ça me fait pas du tout peur. Deuxièmement, autre raison, c'est que j'ai passé beaucoup de mon temps et ma vie militante à militer pour les droits des femmes et la place des femmes dans la société et la place des femmes dans l'histoire. J'ai même fait un travail à une époque, dans les années 80, sur la mémoire des femmes du Nord-Pas-de-Calais. Donc ça, c'est une des raisons qui me poussait en avant, parce qu'au moment où on me pose la question, moi qui ai défendu l'histoire des femmes, c'est pas le moment de reculer. La deuxième raison, c'est que c'est aussi l'histoire de ma région. Toute ma vie militante, c'est l'histoire, et une histoire qui a marqué, d'ailleurs on le voit aujourd'hui avec Radio Quinquin, ça fait partie aussi de l'histoire de cette région, de sa résistance, de ses luttes. Voilà, ça, ce sont les deux raisons. Et il y en a une troisième quand même. C'est qu'à un moment où le monde politique et les politiques, entre parenthèses, sont discrédités, où les gens les regardent plutôt avec un regard négatif et mettent tout le monde dans le même panier, malheureusement, moi je pense que mon parcours, c'est un parcours politique jusqu'au plus haut niveau, et qui correspond pas du tout à l'idée que se font les gens des politiques, parce qu'on peut faire de la politique de manière désintéressée, sans esprit de carrière, et occuper des responsabilités importantes sans changer. Et donc c'est aussi ma contribution pour redonner un peu ces lettres de noblesse à la politique, parce que je pense qu'on pourra jamais vivre en démocratie s'il n'y a pas de politique.
Jean-Jacques.
Oui, peut-être un petit retour historique. En juin 1997, la gauche vient de remporter l'élection législative et vous recevez un petit coup de fil. C'était quoi ce coup de fil? Un voisin, une voisine, un ami?
Non, c'était Robert Rue. En fait, on sortait des réunions des assemblées du Parti communiste, qui avait lieu d'ailleurs le jour même, et qui devait voter pour savoir si on allait participer au gouvernement de Lionel Jospin. Bon, c'était un peu une surprise parce que ça se passait après la dissolution. On n'avait pas eu le temps vraiment beaucoup de préparer cette décision. Mais globalement, l'ensemble des militants partout décidaient de participer au gouvernement de Lionel Jospin, même si il y avait quand même quelques doutes. Hein, on peut les rappeler. Et les périodes précédentes avaient aussi amené un certain nombre de questionnements. Et donc, il est 11h30, on rentre avec Pierre, mon mari, de cette assemblée à Armentières. Le téléphone sonne. Et donc, c'est Robert Rue, c'est Pierre qui décroche. Il pense que c'est une blague. Ouais, on ne s'attendait pas à des choses comme ça. Non, c'était très sérieux, donc il me le passe. Et là, c'est là où Robert Rue me dit, ben voilà, on va avoir 3 ministres communistes dans le gouvernement de Lionel Jospin. Une femme, 2 femmes et un homme. Et donc j'ai pensé à toi. Donc c'est encore une fois, j'ai dit pourquoi moi, parce que bon, c'est pas du tout dans un cursus à laquelle je m'attendais. Et donc j'ai dit, j'ai combien de temps pour réfléchir ? Il m'a dit un quart d'heure.
Ouais.
Un quart d'heure après, il l'a rappelé. Et puis j'ai dit oui. Pour les mêmes raisons du livre, quoi, femmes, régions, etc. À un moment donné, je ne pouvais pas m'imaginer dire non et regarder les gens de ma région en face, qui n'auraient certainement pas été contents que quelqu'un du CRU refuse de prendre cette responsabilité, porte aussi les couleurs de la région dans le gouvernement.
Vous arrivez, votre engagement, il est d'abord syndical, il devient politique ensuite, mais l'engagement initial, c'est le syndicat, c'est le travail qui vous fait militer, l'univers du travail.
Eh bien, c'est comme beaucoup de ma génération de militants, c'est 68. Et en fait, en 68, j'ai 20 ans, j'ai pas encore 21 ans, je suis entre 20 ans et 21 ans. Et un matin, lorsque j'arrive à la porte de mon entreprise, il y a des piquets de grève. Je n'ai pas encore trop conscience de ce qui est en train de se passer dans le pays, à vrai dire. Et les piquets de grève donc, nous expliquent ce qui se passe. Ils venaient des autres entreprises, ce n'était pas ceux de mon entreprise. Et ils nous demandent de ne pas rentrer et de participer au mouvement. Et là c'est pareil, j'ai 2 secondes pour réfléchir. Et donc je prends vite conscience que soit on rentre, soit on ne rentre pas.
Choisis ton camp, en quelque sorte.
Voilà. Et ce qui m'a empêché de rentrer, je pense que c'est... Bon, je fais partie d'une région ouvrière du textile, dans la vallée de la Lys, où il y avait quand même eu des grandes grèves en 1936. Ça faisait partie... Mes parents n'étaient pas engagés, mais ça faisait partie des souvenirs familiaux. Et comme on ne traverse pas la rue... Sans regarder, on ne passe pas un piquet de grève. Donc, je n'ai pas passé le piquet de grève, mais en même temps, je me suis rendu compte tout de suite que ça ne pouvait pas s'arrêter là et qu'il fallait que j'empêche aussi mes collègues de rentrer. Voilà, c'était le premier engagement. C'est celui qui a construit ma vie militante tout au long de ce parcours des 50 ans.
Alors, ce qui est fabuleux dans le livre, et moi, je ressens ça, c'est que je vous découvre beaucoup mieux à travers ce récit. Et j'ai l'impression que le combat, il est fait d'engagement et d'amour, beaucoup. Il est beaucoup question également d'amour dans ce livre. On parle de votre frère, on parle de vos parents, on parle de Fabien, on parle de Pierre. Il y a tout ça. Et puis, pour les autres également, il y a un réel amour de l'autre. Vous en aviez conscience et c'est en le lisant que vous aussi, vous avez ressenti ça. Ce sentiment que peut-être on met... Pas forcément en avant, parce qu'il y a une part de pudeur quand on est homme ou femme publique.
Alors ça, c'était le grand défi pour moi, c'était de parler de moi et tout ça. Alors que quand on est engagé, qu'on est toujours à regarder devant, on ne raconte pas ça, on n'explique pas ça. C'est dommage d'ailleurs, je pense que ça donnerait plus d'humanité à l'engagement. Mais de toute façon, ce que je veux dire, c'est que l'engagement, c'est quand même de l'amour. Parce que si on n'aime pas les gens, si on n'a pas ce respect, cette envie qui s'élève, eh ben, on ne trouve pas la force de l'engagement.
Sauf que votre engagement, quand vous dites l'engagement, c'est de l'amour. Votre engagement, c'est l'amour de tous. Oui. C'est la grande différence. Il y a des gens engagés qui ne sont pas pour l'amour de tous.
Oui, mais moi, je suis issue de conditions modestes, d'une famille ouvrière. Et moi, ce qui a toujours un peu conditionné les milieux ouvriers, il y a 50 ans et encore longtemps après, peut-être moi aujourd'hui avec cette montée de l'individualisme, c'est le collectif, c'est le commun, c'est être ensemble, s'organiser, constituer une force. Et donc, c'est, moi, j'ai été nourrie comme ça. Bon, on était des grandes familles aussi avec... moi, toute ma famille travaillait dans le textile depuis le début des années 1880. Et bon, alors c'était, ça finissait par être une vraie communauté de vie qui vit ensemble, qui lutte aussi ensemble, plus ou moins. Et alors, le fait aussi qu'il y ait l'aspect familial, c'est que, en fait, moi, mon parcours, c'est ça. C'est que j'ai 20 ans, en 68, je rencontre mon mari en février 68. Et mai 68, il y a ce mouvement. Lui, il fait le mouvement dans son entreprise, chez Bâtir, à Lille, sans qu'on s'en parle, d'ailleurs, parce qu'on n'était pas à ce niveau-là. Et puis après, ben voilà, on a construit notre vie personnelle autour de la vie militante, et c'est complètement lié.
Voilà, il y aura la perte d'emploi. Vous allez connaître toutes ces épreuves, tout ça. Ouais. Tout à l'heure, Jean-Jacques évoquait, ben voilà, ce coup de téléphone, on vous invite à faire partie de l'équipe gouvernementale. Vous dites oui, et vous allez rentrer dans l'action au plus haut sommet. Ça change véritablement quelque chose. Est-ce que quand on est comme ça, ministre dans un gouvernement, on a toute latitude, ou alors on doit de toute façon céder à ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale et parfois renoncer? Avez-vous dû renoncer parfois?
Pas sur le plan du ministère que j'avais en charge, c'est-à-dire le tourisme. Là, j'ai quand même eu... globalement, ce n'est pas un secteur qui a un enjeu important. Il n'a pas toujours un ministre, d'ailleurs. Et depuis, il n'en a plus. Donc, moi, j'avais le champ complètement libre dans l'espace que j'avais pour construire quelque chose de nouveau. C'est ce que j'ai fait. Évidemment, j'avais un ministre de tutelle, qui était Jean-Claude Guessot, qui, lui, était au transport. Mais très vite, je suis allée voir Jean-Claude Guessot, puis je lui ai demandé de me laisser faire mon travail. Je lui ai dit, on est trois ministres communistes, pas deux. Donc là, de ce point de vue-là, la solidarité de Jean-Claude était effective. Il m'a laissé faire. Alors après, et donc quand j'ai pris ce ministère en main, qui n'était jamais bien managé politiquement, je lui ai donné des axes. C'est-à-dire, pour moi, le tourisme, c'était important pour notre pays, c'était de la recette touristique, on est à la première destination, c'est de nombreux professionnels, mais l'emploi, c'est pas terrible. Donc, dans ce ministère, on a commencé à travailler sur la question du travail des saisonniers. C'était la première fois. Là, je l'ai fait, bien sûr, avec la ministre du Travail de l'époque, qui était Martine Aubry, mais elle aussi, elle m'a laissé faire là-dedans, parce que c'était un sujet qui était complètement inexploité. Ensuite, pour moi, le tourisme, c'était aussi le droit aux vacances. Ça, il fallait être militante pour penser ça. Hein. Et le tourisme social. Moi, je venais de cette famille syndicale où on avait construit, avec les comités d'entreprise, un patrimoine sur l'ensemble du pays. Et donc, mais qui était laissé un petit peu, du point de vue ministériel, complètement à l'abandon. D'ailleurs, on avait supprimé les financements, ce qu'on appelait à l'époque l'aide à la pierre, pour faire les rénovations. Donc moi, je me suis occupée de ça, j'ai tout remonté, et puis je me suis battue pour avoir de l'argent pour le faire. Et j'ai, dans l'administration, mis à service tourisme social et droit aux vacances qui n'avaient jamais existé. Donc voilà, il y a des tas de choses comme ça. Comme le tourisme et handicap, c'est aussi moi qui ai mis ça en place. C'est-à-dire que j'ai amené ce que j'étais, parce que je suis une militante et que je suis née comme ça, j'ai amené de l'humain. Dans ce travail, et c'est possible. On peut toujours mettre de l'humain, y compris dans un travail ministériel.
Liberté dans votre ministère, liberté également sur le point de vue du programme général porté par ce gouvernement, où il y a des choses qui se sont passées dans cette période qui vous ont un peu hérité.
Non, bah le bilan est très controversé. Hein, de cette période, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Si on peut dire qu'il y a eu des choses qui représentaient des avancées sociales, comme les 35 heures, comme la CMU, et d'autres choses encore, on peut dire aussi que c'est pendant cette période où on a commencé toutes les privatisations, hein, notamment des grands secteurs publics. Alors, bien sûr, on s'est exprimé là-dessus, les ministres, dans les réunions de ministres, dans le Conseil des ministres, mais nous n'étions que trois. Et on nous faisait quand même sentir. C'est-à-dire que quand on argumentait sur les dangers d'un certain nombre de positions et d'orientations qui étaient prises, il y avait deux remarques qu'on nous faisait tout le temps. Un, c'était qu'on était, du point de vue financier, limité par la barre des 3% pour les convergences européennes. Alors ça, c'était un dictat incroyable. Donc ça terminait toujours la conversation. Et deuxièmement, ben, ça, je me souviens, c'est Lionel Jospin, à un moment donné, quand on forçait un peu, il nous disait d'accord, peut-être, mais les Français nous ont choisi en majorité.
Jean-Jacques.
Donc la messe était dite.
Donc le textile, je monte au gouvernement et j'en sors. Et qu'est-ce qu'on fait après ?
Ah ben, qu'est-ce qu'on fait après ? Moi, après avoir vécu cette expérience qui était quand même assez, j'irais, inédite et exceptionnelle. D'ailleurs, j'avais l'impression, moi, j'étais sénatrice avant, hein, donc j'ai connu un peu le monde national, les rapports avec l'exécutif, etc. Mais là, en étant ministre, j'avais l'impression de passer de l'autre côté du miroir. Et ça, c'est un atout considérable. C'est-à-dire, quand on a vécu comment ça se passe de l'autre côté, là, on a encore plus d'arguments pour défendre des choses et pour expliquer autour de soi comment ça se passe, comment sont prises les décisions et sur quel levier, quelquefois, on peut appuyer.
Le mécanisme de la machine,
oui,
pour pouvoir mieux rentrer dedans.
Voilà, c'est ça.
Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe en France, on va parler du 5 décembre à venir, l'enjeu premier, il est quoi ? Il est de convertir les jaunes au rouge, en quelque sorte, de faire passer ces gilets du jaune au rouge et de leur dire on est inquiet également avec vous, mais on pense que la mobilisation ne doit pas être uniquement sur les ronds-points, mais ailleurs.
Oui, bah, moi je pense que les gilets jaunes, ils étaient un peu rouges quand même. Enfin, pour moi, dans leurs revendications, dans ce qu'ils ont exprimé à un moment donné, après l'affaire de l'essence, qui est vite balayée dès qu'ils se sont retrouvés ensemble et qu'ils ont parlé de leur vie et qu'ils ont vu qu'ils avaient tous les mêmes problèmes, enfin, c'est ce qui leur avait manqué jusqu'à aujourd'hui. Et je les ai trouvés, enfin, moi je me suis retrouvée beaucoup dans leurs revendications, dans ce qui est exprimé, sur ce que je, moi-même, en tant que militante et puis en tant que sénatrice, on n'a pas arrêté de préconiser, de montrer les dangers. Donc seulement, voilà, tous ces gens qui se sont mobilisés à un moment donné, qui ont, disons, explosé à la face un petit peu de tout le monde, eh bien, ils n'avaient jamais rencontré peut-être autour d'eux des militants, des syndicats, parce que globalement, j'irais le paysage politique, économique de notre pays, il a tellement changé en très peu de temps que dans les lieux où on travaille aujourd'hui, d'ailleurs, sont souvent des lieux où il n'y a pas tellement de salariés, puisqu'aujourd'hui, c'est les PME qui sont majoritaires. Eh bien, il n'y a pas eu toujours cette rencontre avec l'organisation syndicale. Après, dans les quartiers, les gens aussi se sont renfermés, ont été, ben, je dirais, comment on dit, l'archipelisation, comme dit Jérôme Fourquet, elle existe dans notre pays. Et donc, ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir s'exprimer, de pouvoir trouver une écoute. Alors ça, c'est la grande leçon de l'histoire que nous devons tirer, nous les militants, par rapport à ça. Mais après, bon, il y a eu des débordements. Et puis, comme ce que je disais tout à l'heure, ils en voulaient à la classe politique, entre guillemets, qui depuis plus de 30 ans n'a pas répondu. Au contraire, leur vie s'est toujours dégradée. Et donc, il y avait ce doute vis-à-vis de la classe politique, vis-à-vis des organisations. Et ils n'ont pas accepté tout de suite qu'on vienne soit les soutenir, soit dialoguer. Mais je pense que c'était nécessaire. Enfin, ils étaient encore sur cette réaction-là. Et aujourd'hui, avec le temps, les choses sont en train de changer. Et puis, bon, ils voient bien qu'on ne peut pas se rassembler. Il faut se rassembler, quelle que soit la motivation qu'on a. Et que, parce que les ronds-points aussi se sont un peu desséchés, parce qu'on ne tient pas comme ça en haleine une mobilisation aussi longtemps sans s'organiser réellement. Et donc, on en est à ce moment-là. Et je pense que le 5 décembre va être un grand moment pour ça. Voilà. Moi qui ai fait 68, j'ai un peu d'espoir. Je ne dis pas parce que les conditions ne sont plus du tout les mêmes. C'est beaucoup plus compliqué. notamment sur la vie des gens, où aujourd'hui, quand on a touché son salaire, il y a trois quarts qui s'en vont déjà dans les charges, et donc ça laisse peu de place pour résister longtemps. Mais quand même, la colère monte, et elle monte beaucoup, et on peut avoir un mouvement très fort, un amalgame de différentes catégories. Et puis, bon, la question des retraites, elle est quand même au cœur pour tout le monde, et la retraite, ça concerne tout le monde, qu'on soit jeune ou vieux.
Alors, elle est au cœur, mais tout au long de cette semaine et des différentes émissions qu'on a réalisées pour fêter cet anniversaire, on s'est rendu compte également que d'autres considérations devaient être mises en jeu. Et la question de l'emploi, la question des privatisations, tout ça, faut porter ce message et le faire passer aujourd'hui.
Oui, je pense, parce qu'il y a une convergence naturelle qui est en train de se faire. Et elle est alimentée par tout ce qui se passe depuis la rentrée. Il y a quand même beaucoup de mobilisations diverses et des problèmes durs comme l'hôpital. Et à nouveau maintenant les licenciements dans les entreprises qui sont en train de reprendre. Je pense qu'il y a un moment donné où ça peut constituer un grand rassemblement et déboucher par un rapport de force que le pouvoir craint énormément, je peux vous le dire. Hein. Ils sont très, très inquiets de ce qui va se passer, parce que bon, ils n'ont pas les outils pour faire face, autre que la violence, hein, parce que jusqu'à présent, la seule réponse, à part les quelques milliards qui ont été attribués aux Gilets jaunes, mais qui ont été récupérés dans le budget aussi vite. Hein. Il n'y a pas eu vraiment de changement profond sur la répartition des richesses dans notre pays. Ça peut constituer une force et qui va nous permettre de faire reculer un peu plus ce pouvoir qui est dans la ligne des 30 dernières années. Et pire, hein. Et pire parce qu'en fait, ils n'ont pas d'expérience politique. Et tout autour, hein, parce que je vois un peu les députés de la REM que je côtoie un peu dans mes responsabilités, ouais, ce sont des gens qui n'ont rien derrière eux, quoi. C'est-à-dire qui aucune expérience et qui, parce que les portes ont été ouvertes pour devenir députés, pensant que la société civile c'était la solution à tout. Ils sont aux manettes avec vraiment beaucoup de dangers, je trouve, pour notre démocratie.
C'est du reste ce que vous expliquez très bien dans cette biographie, tout ce passé en bas avant d'arriver en haut qui construit la personne Jean-Jacques.
Justement, tu reviens sur le livre donc « Une vie à rallumer les étoiles ». Qui a trouvé ce titre ? Parce que je trouve ça superbe.
Alors, c'est ni moi ni l'auteur, parce qu'on n'arrivait pas à trouver un titre qui ne soit pas bateau. Et on avait, à côté de nous, un peu en conseil, une ancienne journaliste, qui a été très longtemps journaliste à La Voix du Nord, qui est une amie, et qui aidait à la relecture, enfin voilà. Et elle a lu, c'est elle la première qui a lu le manuscrit. Et à la sortie du manuscrit, c'est elle qui a trouvé le titre. Et c'est vrai. En fait, c'est vrai. C'est ce qui s'est passé.
Et Patrick Robert, quand on lit le livre, a l'air de bien vous connaître.
Il y a eu des entretiens qui ont été longs, justement. Je pense.
Alors, ce livre, c'est d'abord sa volonté. Ensuite, c'est son travail, sa manière dont il écrit. C'est vraiment une écriture facile, à la portée de tous. Et ma fierté, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne lisent jamais, qui vont lire. Pour moi, ça, c'est très important. Ensuite, il s'est appuyé sur mes archives. J'ai tout déballé. J'en avais beaucoup. Lui-même a fait beaucoup de recherches, parce qu'il voulait aussi, en même temps, de mon parcours, faire l'histoire du Parti communiste sur cette période. Alors ça, c'était plus compliqué, parce que c'est une période d'affaiblissement. Mais ça se termine sur des messages avec la jeunesse. Et puis aussi, elle est préfacée par Fabien Roussel. Donc pour moi, c'est très important, parce que Fabien Roussel, on a fait un tellement long parcours ensemble, au ministère et puis à Lille ensemble. Et voilà, c'est une vraie histoire de militantisme commun on se ressemble beaucoup, en fait.
Donc c'est une fille.
Et puis surtout aussi, il y a 20 témoignages. qui sont très intéressants, qui sont des gens qui m'ont rencontré dans mon parcours. Il y a des militants, il y a des gens engagés politiquement, mais il y en a qui ne le sont pas du tout.
Il y a des photos également qui parlent beaucoup et qui vous montrent à différents moments, dans différentes situations, près de différentes personnalités. Tu voulais rajouter quelque chose, Jean-Jacques ?
Oui, parce que si on peut... franchement, je l'ai lu en 2 minutes tout à l'heure, j'ai fait une diagonale parce que je n'étais pas prévu d'être là, donc ce n'est pas grave.
Mais
je
pense que...
Je me rattrape parce qu'en fin de compte, c'est une jeune fille toute ordinaire, militante, on la retrouve ministre, on la retrouve dans des tas de structures, présidente de l'Union des femmes françaises, si j'ai bonne mémoire. Oui. J'ai vu ça quelque part, j'ai une bonne mémoire. Aussi connue un peu pour les dossiers épineux, genre le stade Pierre-Mauroy. Il semble que vous avez mis votre nez là-dedans et j'ai vu des reportages en mémoire où ça a dû ferrailler un petit peu.
Ça a chauffé.
Ça a chauffé, donc ça va. Donc sans le bouquin, ça me fait... Ça fait du bien, 40 ans de Radio Quinquin, discuter avec vous. Ça fait pas de mal pour les neurones. Donc, un bouquin à lire, c'est-à-dire que si ça vous intéresse, il est à la disposition à l'entrée de la médiathèque.
Donc, aux éditions Nord Avril, on va le signaler pour nous.
Patrick Robert, donc Une vie à rallumer les étoiles, avec une belle photo. Alors, elle est très reconnaissable dans les médias, elle a toujours ses lunettes rouges. Ça, alors là, tout le monde la repère avec ça, il n'y a pas de mystère. Et avec Hachepizier, avec plein de petits oiseaux, ça fait écolo, ça fait beau. Non, mais c'est vrai que... Enfin, je ne veux pas remercier le photographe, mais ça doit être par quelque part, je ne l'ai pas bien vu. Voilà donc Michel de Messine, Une vie à rallumer les étoiles. Là.
Il fait bien l'article.
Quand c'est bien, il faut le dire.
Quand c'est bien, il faut le dire. Simplement, également, là, on va devoir de toute façon vous libérer parce que vous allez vous prêter au jeu de la dédicace. Mais ce livre, il est également important parce qu'il montre que l'on peut également dire... Mais tiens, et pourquoi pas une femme? Et là, je pense à elles aussi, cette formation qui milite pour la représentation des femmes dans toutes les instances, qu'elles soient municipales, intercommunales et au-delà. Ça aussi, on aurait très bien pu proposer à votre époux à l'époque, qui était lui aussi très en vue. Et ça, c'est important également que de se dire, ouais, et j'accepte. Et puis derrière, une famille qui va vous suivre également et en aucun cas vous entraver. Et de temps en temps, on dit de façon péjorative dans la famille, c'est elle qui porte la culotte. Mais heureusement qu'il y a ces femmes qui sont très fortes. Et parce que ça permet également d'avoir des hommes très forts à côté. Voilà, moi, c'est le sentiment que j'ai senti également. Et c'est important également, ce côté, une femme, aujourd'hui, ça compte.
Oui, moi, je suis très forte. Peut-être on peut penser ça quand on lit le livre. C'est mes convictions. C'est un peu mes convictions. C'est le respect et la dignité ouvrière au départ. C'est quand même c'est ça qui m'a bâtie. Après, c'est les injustices auxquelles j'ai été confrontée et que j'ai pas accepté. Donc, je me suis engagée. Et puis aussi, je suis forte, mais surtout forte du combat des autres. C'est-à-dire que tous ces combats que j'ai menés avec les femmes, avec les salariés, avec tous ceux qui étaient, qui subissaient une discrimination, je pense en particulier aux retraités de la CARSAT qui ne touchaient pas leur pension, à ceux qui ont été confrontés aux problèmes de l'amiante que j'ai suivi, que j'ai dénoncé. Et c'est à eux, c'est de leur combat que je suis forte. Je suis emplie de tous ces combats et c'est ça qui me donne de la force. Je suis forte au départ peut-être parce que j'ai une personnalité qui n'a pas peur, mais je n'aurais pas cette force si j'étais pas remplie de tous ces combats et de l'espoir que portent ces combats. Et mon espoir à moi, je l'ai toujours puisé dans le départ, c'est de 68, avant 68, et avec ce qui s'est passé alors que je ne m'attendais pas à ça et mon engagement, j'ai découvert que j'existais et que je pouvais contribuer à quelque chose. Et surtout, après 68, mon salaire a augmenté de 50%. Parce que c'était les accords de Grenelle, plus la décote des jeunes de moins de 21 ans, ils avaient 20% en moins de leur salaire. Et ça m'habite toujours pour trouver l'espoir.
Jean-Jacques.
La dernière phrase de son livre, nous tenons aussi à les remercier. Donc elle remercie tous ceux qui ont travaillé avec elle. Et que dire de cette excellente bière Saint-Feuillat qui ponctuait invariablement nos rendez-vous?
Voilà, ça c'est Patrick. Patrick, quand il arrivait l'après-midi, c'était pas un café, c'était sa petite bière. C'était, c'est symbolique de notre région. Il a beaucoup apprécié, donc
C'est pour ça que c'est noté. Publicité gratuite. Hein.
Voilà. Merci beaucoup. On va vous laisser aller rencontrer votre public lecteur. Dernière question. Radio Quinquin, ça vous évoque quoi? On est aujourd'hui ici pour fêter les 40 ans de la naissance de cette radio. Aujourd'hui, quel souvenir vous en gardez ?
Alors, c'est un superbe combat. D'abord, c'est une riposte au fait que nous étions muselés, tout ce qui était lutte et revendication muselée dans la presse. Donc enfin, on sortait de la torpeur et on imaginait quelque chose pour pouvoir nous exprimer, enlever la chape de plomb. C'était un combat épique parce qu'on a rencontré les CRS ici, donc ça a laissé des souvenirs impérissables. Mais ça s'est bien passé quand même. Il y avait quand même une expérience de la lutte qui permettait de ne pas tomber dans les provocations. Donc voilà, c'est une belle lutte. Ça a été la naissance des radios libres. Et j'ai une petite pensée aujourd'hui, peut-être vous ne l'avez pas évoqué, c'est que ça a donné naissance à d'autres radios. Et je pense en particulier à quelqu'un qui travaillait dans une entreprise, c'était une imprimerie à la Chapelle d'Armentières, qui était mon voisin de derrière, que je connaissais bien, dont la femme s'appelait Mona, et qui, avec le combat de Radio Quinquin, où il est venu ici, il a créé sa radio, d'abord dans sa maison. Il est devenu, vraiment, c'est une radio locale qui fonctionne très bien, très populaire. Et puis, aujourd'hui, c'est son fils qui a repris le relais. Et Radio Mona, c'est vraiment une radio qui est sur la place des radios. Et elle a vu sa naissance ici à Radio Quinquin. C'est pour ça que j'ai un souvenir particulier.
Voilà, c'est ce que je disais. Ça a engendré, nous, ici, Scarpe Sensée. On sent également très, très proche, cousin, déjà, à l'époque, et notamment... un peu plus parce qu'on était sur le Douaisis, territoire immédiat. Merci Michel de Messine. Encore une fois, c'est aux éditions Nord Avril, une vie à rallumer les étoiles.
Alors on la trouve parfois dans les librairies.
De préférence.
Voilà, de préférence. Mais sinon, on peut l'acheter par Internet. Dès qu'on met Michel de Messine, une vie à rallumer les étoiles, ça clique. C'est un endroit où on peut l'acheter si on est loin de tout endroit. Ou alors, on vient dans les petites rencontres que je fais un peu partout dans le département.
Voilà. Mais si vous avez un libraire à portée de main, voilà. Oui.
Surtout le libraire. Voilà. Il peut le commander.
C'est pour ne pas revenir sur ce qu'on a fait aux infos ce matin.
Merci beaucoup. On vous libère et puis on vous parle.
Merci à vous surtout de m'avoir invité. Ça m'a fait énormément plaisir.
Merci beaucoup. On vous laisse aller rencontrer votre public. Tout de suite, une pause musicale sur Radio Scarpe Sensée dans cette émission consacrée aux 40 ans de la naissance de Radio Quinquin. Nous sommes en direct depuis la médiathèque Louis Aragon d'Aubie jusque 18h.